Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
La commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques de l'enfance a conclu ses auditions mercredi 19 février de cette année 2025. La rapporteuse, Isabelle Santiago, a promis de livrer un rapport et des préconisations au début du mois d'avril, explique le journal Le Monde qui a suivi les travaux de la commission. Catherine Vautrin, la ministre chargée du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille, y a prononcé les derniers mots. Elle a promis notamment la refondation de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, dont bénéficient presque 400 000 enfants et jeunes majeurs, explique toujours Le Monde, et elle a pris acte, je cite, de ses défaillances nombreuses. Aujourd'hui, on parle de ça justement, de ces défaillances vertigineuses, avec l'une des personnalités venues témoigner parmi les premières devant la commission. Il est devenu un des représentants les plus engagés dans la lutte pour les droits des enfants de l'ASE et contre ses dysfonctionnements. Son histoire est à la base de son engagement, elle est à peine croyable et pourtant on ne peut mieux documenter. Tout de suite donc, comme celle de cet enfant de 4 ans, passé par 17 lieux de placement, mentionné par l'article du Monde, voici l'histoire de l'IS Loufoque par Olivia Muller.
Je suis Lies Loufoque, j'ai 30 ans, je suis né le 3 novembre 1994 dans les Yvelines à Meulan. Quand je suis né, j'ai tout de suite immédiatement été retiré à ma mère biologique parce que ma mère biologique est atteinte d'une maladie mentale assez grave et qu'au moment de sa grossesse, il avait déjà été établi qu'elle ne serait pas en capacité de pouvoir s'occuper de moi convenablement. Et donc, le juge des enfants a ordonné immédiatement à ma naissance mon placement à l'aide sociale à l'enfance. Et à l'âge de 18 mois, j'ai intégré ma première famille d'accueil. C'était une famille d'accueil extrêmement aimante. Donc c'est Denise et Yves qui étaient mariés. Denise avait des grands-enfants déjà, hein, qui étaient adultes. Et donc j'étais seule avec eux de 18 mois à 4 ans. J'y suis pas restée parce qu'en fait, ils ont fait le choix de partir vivre dans le sud de la France. Donc la décision a été prise de me faire partir de cette famille pour me confier à une autre famille qui habitait proche de la région parisienne. Ça a été en fait le début de la descente aux enfers. Quand j'arrive dans cette deuxième famille d'accueil, c'est là où je suis confronté pour la première fois de ma vie à la violence d'un adulte en fait. Le premier jour où j'arrive, d'ailleurs, j'avais été très surpris parce que c'était une grande dame blonde qui m'a ouvert la porte. Puis après, elle m'a montré la pièce dans laquelle j'allais vivre, parce que je qualifie pas ça de chambre. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de commode, il n'y avait pas d'armoire, il y avait vraiment, en fait, le seul truc qu'il y avait au sol, c'était une plaque de polystyrène. Alors, c'était même plus qu'une plaque de polystyrène, parce que c'était un espèce de tapis d'enfant. Et je me souviens, parce que c'était Mickey et Minnie qui étaient dessus. C'était ça qui allait me servir de lit. Et en fait, elle m'enferme à clé. Je n'avais pas le droit de manger avec eux, donc ils mangeaient ensemble en famille, et moi, je mangeais seul après que eux aient mangé. Et ensuite, je retournais dans ma chambre, et de nouveau, j'étais enfermé à clé. Et ça a été très difficile parce que en fait j'avais pas accès aux toilettes pour faire mes besoins. Et quand elle ouvrait la porte le matin, bah là c'était des coups. Elle hurlait en disant « Ah, il a encore fait ses besoins !» Elle me prenait par les cheveux, elle m'emmenait dans la douche, elle me jetait l'eau glacée. Puis ensuite elle me remettait dans la chambre et puis de nouveau j'étais enfermé à clé. C'était un âge où normalement j'aurais dû être à l'école maternelle en fait. Et moi je n'ai pas été scolarisé à ce moment-là. Ça a choqué personne en fait. En fait, il a fallu que j'attende le retour de Sarah, donc mon éducatrice qui était en arrêt maladie, pour que quelqu'un s'intéresse enfin à ma situation. C'est là où elle constate l'état dans lequel je suis, qu'elle constate la pièce dans laquelle j'étais enfermé. Tout de suite, elle me prend avec elle, elle me fait monter dans sa voiture. Et en fait, pendant le trajet, elle appelait pour trouver une place en urgence quelque part. Et on a trouvé une à Villeneuve-Saint-Nicolas, dans l'Eure-et-Loir, dans une maison collée à une église, avec un grand jardin, un cheval. Et là, donc, c'est Evelyne qui m'ouvre la porte. Quand j'arrive chez elle, je suis un enfant très... Enfin, je parlais pas, en fait. J'étais là, mais sans être vraiment là. Elle me montre ma chambre. C'était une très belle chambre, avec du papier peint jaune, avec des petits oursons dessus. Je redécouvre tout un monde, hein. Je suis scolarisé, je vais à l'école primaire. Enfin, y a plein de choses que j'apprends, en fait. Les repas à la même table, on regardait la télé. Alors, à cette époque, il y avait Plus belle la vie qui passait. Voilà, une vie de famille. Et moi, la première année, je dirais qu'on était dans une... Enfin, on a essayé de s'apprivoiser mutuellement, avec, malgré tout, une forme de tristesse qui laissera place après à une forme de colère immense. Cette colère-là, elle est arrivée au bout d'un an, je dirais, une fois que j'ai commencé vraiment à me stabiliser, à me poser, à trouver mes marques. Donc, ça a complètement éclaté. Et j'étais devenu un enfant turbulent, agressif. J'avais un rapport à mon corps qui était très particulier. Les douches m'effrayaient, donc me mettre nu dans la salle de bain pour me laver, c'était des choses qui étaient impossibles pour moi. Voilà. Et donc là, elle m'emmène voir un pédopsychiatre de l'aide sociale à l'enfance. Et cette pédopsychiatre me donne donc du Valium, du Tercian et du Risperdal. Donc c'est des anxiolytiques et des antipsychotiques très forts qui, moi, m'assommaient complètement. Complètement. Donc de là, la relation pendant les deux années où je suis resté ensuite, elle s'est considérablement dégradée. Il n'y avait plus de moment de bonheur, en fait. Moi, je hurlais, elle hurlait, elle me giflait, du coup, moi, je la bousculais, je pouvais la mordre, je pouvais tirer les cheveux. Je prenais mon vélo, j'allais dans les bois, je pouvais dormir dans la forêt, je me construisais des cabanes, je revenais le lendemain. Et puis, en fait, un matin, Sarah est revenue et puis elle m'a annoncé que j'allais partir en fouille. Donc on a pris la voiture, on a roulé, on est arrivé à Vernouillet, une petite ville des Yvelines. Voilà, j'arrive en foyer à 10 ans. Le premier jour quand j'arrive dans ce foyer, donc je vais dans le bureau de la directrice et là la directrice me parle des règles, tout est très cadré. Puis ensuite, elle fait appeler dans son bureau un enfant qui est placé dans ce foyer-là, Anthony, qui est un tout petit peu plus âgé que moi, pour lui demander de me faire la visite. Le premier truc qui m'a frappé, d'abord, c'était le nombre d'enfants dans ce foyer. On était un foyer de 40 places et la différence de tranche d'âge. Il y avait des enfants de 3 ans et ça allait jusqu'à 18 ans, avec des enfants handicapés, des enfants qui ne l'étaient pas, enfin bon, bref. Et l'autre chose qui m'a frappé immédiatement, c'est l'agressivité avec laquelle les gens se parlaient, en fait. Ils s'invectivaient, ils s'insultaient. Ensuite, on me présente la chambre dans laquelle je vais dormir. Donc, c'est un dortoir. Moi, j'étais au début dans un dortoir la première année avec 6 lits. Donc, c'était des lits superposés. Et ensuite, voilà, il y avait des espèces de mixité d'âge dans les chambres. Les petits étaient mélangés aux grands. La première année, contrairement à quand j'étais en famille d'accueil, disons-le clairement, j'étais une grosse victime. Je me défendais pas. J'avais peur des autres. Il y avait une violence, des espèces de rituels où t'avais des plus grands qui pouvaient faire bouffer leur caca aux plus petits. Il y avait un jeu qui consistait à se mettre en ligne avec un grand qui cognait le plus fort possible dans les épaules ou au niveau du thorax. En fait, c'était de la violence en permanence, quoi. Des agressions sexuelles, des fellations forcées dans les chambres, des séances de masturbation collective. Et moi, j'ai été la première année victime de violences sexuelles commises par un jeune du foyer qui approchait de la majorité, en fait. Et ça, ça a été pour moi une souffrance absolue. Et c'est là où, dans le foyer, j'ai eu énormément peur, parce qu'en fait, je me suis dit, il n'y a pas d'échappatoire. On est scolarisés dans le même collège, donc il n'y avait pas de moment de répit, en fait. Et donc, finalement, je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. Un jour, on a découvert le corps de Cindy, donc, qui était une jeune fille placée dans ce foyer, pendue au barreau de son lit. Et Cindy, c'est une jeune fille qui était elle aussi victime de violences sexuelles commises par les garçons du foyer. Moi, j'en ai beaucoup voulu aussi aux adultes qui travaillaient dans cet établissement, parce qu'en fait, tout le monde le savait en réalité. Tout le monde le voyait, tout le monde le savait que c'était des choses qui se produisaient à la Tournelle, mais on avait beau alerter la direction, il n'y avait rien qui se passait. Tout ça aurait pu ne jamais se produire si les adultes qui étaient présents dans cette structure avaient pris leurs responsabilités. T'avais des éducs qui étaient très bien, mais qui, du coup, en fait, intégrés dans ce système-là, est impuissant et confronté à ça sans que ça génère chez eux trop de révolte. Ça, j'ai jamais compris. C'est la banalisation du mal, en fait. Voilà. La première année, après avoir vu tout ça, après avoir déjà vécu tout ça, je me suis dit qu'il n'y avait que deux possibilités qui s'offraient à moi à ce moment-là. C'était soit je me tuais comme Cindy avait pu le faire, soit au contraire, je vais faire comme les autres et je vais plus jamais me laisser faire. Et là d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai développé un sentiment qui était très particulier, qui était l'absence de peur la plus totale. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne me faisait peur. Je pouvais me bagarrer, je pouvais me mettre dans des situations de danger en fuguant. Une fois, j'avais fugué avec Sandy et Carla, qui étaient mes deux meilleures amies au foyer. En faisant semblant d'aller à l'école, on se met à courir vers la gare et on va prendre le train pour aller à Saint-Lazare. Et ensuite, on visite Paris. On finit le soir avec un pot de Nutella, je me souviens, sur un des bancs à la Tour Eiffel. Et il y a les personnes qui vendent les petites Tours Eiffel qui se mettent à courir. Et il y en a un qui fait tomber son téléphone portable en courant, parce que t'avais les flics qui les coursaient. Donc nous, on ramasse le téléphone portable et on décide d'aller leur rendre, en fait. On commence une discussion. Et les gars donc nous proposent de passer la nuit dans un de leurs appartements à Barbès, en échange de quoi Sandy devait faire une fellation à un homme. Enfin ouais. Donc voilà, donc quand on fugue, c'est aussi des mises en danger très concrètes comme celle-ci. Donc, en fait, chaque chose qui peut nous permettre de fuir ce quotidien et de survivre, en fait, hein, même si c'est des choses extrêmement dangereuses, bah, ça restera toujours moins pire que ce qu'on vivait dans ce foyer-là. Toujours. Ça a été mon mode de fonctionnement pendant 3 ans, non-stop, jusqu'à ce que les adultes vraiment n'en puissent plus. Et là, en effet, décident de m'exclure. Dans ce foyer-là, il y avait un livre qui circulait pas mal, c'était celui de Samira Bellil, donc dans l'enfer des tournantes, qui raconte les viols collectifs qu'elle a pu subir dans les cités où elle a vécu. Et moi, quand je lis ce livre, ça a été un peu une claque. Ça a été la première personne à qui je me suis vraiment identifié dans la souffrance que je vivais à ce moment-là. Et elle parlait de sa colère, ça faisait écho avec ma propre colère, sa hargne du combat qui était le sien. Et donc je me suis beaucoup, beaucoup identifié à elle. Ça a cheminé, en vrai. Je l'ai lu ce livre pour la première fois à l'âge de, je dirais, 12 ans et demi, 13 ans. Et ensuite, voilà, je suis parti dans ce qu'eux appelaient un foyer de rupture dans le Calvados. Donc un foyer de rupture, c'est une structure qui est assez isolée, dans laquelle il n'y a pas de contact avec l'extérieur, et qui vise à permettre à l'enfant d'avoir des moments de réflexion sur ce qui l'a conduit dans ce foyer-là, et sur son avenir. Et souvent c'est associé à un projet pédagogique. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était une ferme. J'arrive dans cette ferme, j'allais avoir 14 ans, et donc là, je suis accueilli par Denis, le fermier. Je m'attendais à avoir d'autres enfants avec moi dans cette structure, mais c'était pas vraiment le cas. J'étais le seul enfant quand je suis arrivé. Denis me fait le tour de la propriété, il me montre ses animaux, il me montre la ferme, et là il me montre également la chambre dans laquelle je vais aller vivre. Il y avait des mégots de cigarettes par terre, des canettes de bière, les draps étaient complètement souillés, lui-même était dégueulasse, il y avait une odeur dégueulasse dans la baraque. Enfin, franchement, c'est un peu cliché ce que je dis, mais une vraie maison de campagne avec un mec qui se laisse complètement aller. Il me donne les règles, il me dit « Tu vois, ici, il n'y a que des champs, la première gare, elle est à plus de 20 km, donc de toute façon, tu peux fuguer, tu peux courir, tu peux y aller, t'arriveras jamais nulle part. » Ok, bon. La première semaine, je fais des efforts, voilà, je parle avec lui, je me lève le matin, je vais nourrir les bêtes et tout. Et puis après, j'en ai eu vraiment ras-le-bol. J'étais là, genre, en fait, là, je vais pas pouvoir, je vais péter un plomb. En plus, moi, j'ai commencé à fumer très tôt. Donc, j'avais pas de nicotine, j'avais pas de clope. Lui, il fumait pas, je pouvais même pas en voler. Enfin, franchement, j'étais là, c'est bon, je vais me barrer d'ici. Un jour, j'appelle ma mère biologique, je suis au téléphone avec elle, et là, je me rends compte qu'en fait, il écoute ma conversation dans la pièce à côté. Je suis en train de couper une tomate, enfin je sais plus ce que je faisais, et là j'ai pété un plomb. J'ai posé le téléphone, je me suis approché avec le couteau, je lui ai dit « Je te préviens, tu continues d'écouter mes conversations, je te tue dans ton sommeil. » Donc là évidemment il a pris peur, il a tout de suite appelé l'ASE en disant « Faut le récupérer. » Voilà. Donc ils sont venus me chercher le lendemain, et mon éducatrice de l'ASE revient en me disant « L'IS, on t'a trouvé un foyer dans le sud de la France, avec un cadre beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict. » Voilà. Mais en attendant, elle me dit, tu vas aller dans une famille d'accueil pendant 2 semaines, le temps que la place se libère là-bas. J'arrive chez Madame Moussa. Moi, quand elle m'a dit, la dame s'appelle Madame Moussa, je m'attendais à voir une dame africaine. En fait, non, pas du tout. C'était une dame algérienne avec les cheveux blonds platine. Elle se faisait des colorations et avec un regard toujours méchant, un peu strict, quoi. Et Madame Moussa a fait quelque chose ce jour-là, donc pour m'accueillir, que aucun autre adulte n'avait jamais fait auparavant. Quelque chose de très simple, mais qui a changé ma vie. c'est que elle me fait m'asseoir sur son canapé à côté d'elle, elle me regarde droit dans les yeux et elle me pose une question toute simple. Elle me dit « Bah alors, tu peux m'expliquer pourquoi t'es là ?» Ça a été la première fois qu'une adulte me donnait la parole pour expliquer ce que j'avais compris de mon placement. Ça a été une porte qui s'est ouverte à moi et qui a tout changé en vrai. À partir du moment où elle me pose cette question, bah, j'y réponds. Et puis j'y réponds de manière totale. C'est-à-dire en fait, on se lance dans une discussion fleuve où je lui parle de mon enfance, je lui parle des familles d'accueil dans lesquelles je suis passé, je lui parle de la violence en foyer, de mon rapport avec les adultes, avec les éducateurs de l'ASE qui ne me comprennent jamais, qui prennent toujours les mauvaises décisions. Bon, je raconte tout. Et ce qui est très drôle, c'est que, en fait, elle se stoppe et elle me dit « Tu sais, Lies, des enfants placés, j'en ai accueilli beaucoup, beaucoup chez moi. Et ce que t'as vécu, t'es pas le seul à l'avoir vécu parce que malheureusement, j'entends ça trop souvent. » Et là, je me suis dit « Mais c'est complètement dingue. » Ça, cette phrase, ça a désamorcé beaucoup de choses en moi. Je me suis dit « En effet, ouais, c'est vrai, je suis pas seul, en fait. On est nombreux, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. » Elle comprend le personnage, donc elle me dit « Tu sais, Lies, ici, il y a deux règles. Tu dois rentrer avant 22h et tu me ramènes pas la police parce qu'elle hébergeait des sans-papiers en bas. Le reste, je m'en fiche. » Et le paradoxe, c'est que pendant 2 semaines, je n'ai jamais ressenti le besoin de partir de chez elle. Jamais. Je me sentais bien avec elle. Elle me racontait toutes ces anecdotes sur les gamins qui étaient passés par chez elle. Cette femme a sauvé ma vie. Voilà. En fait, il y avait plein de gens dans cette maison. Moi, je l'appelais la maison du bonheur parce que pendant 2 semaines, j'ai rencontré des gens extra, d'autres gamins de l'ASE qui étaient là aussi, mais beaucoup plus âgés en fait. Jordan, qui était un punk avec une crête, cheveux colorés en rose. Mohamed, qui venait de Tanger, qui était un ancien mineur non accompagné qui arrivait du Maroc. Siem, qui a été placé à l'ASE parce qu'en fait, ses parents se sont pendus devant elle. Il y avait Abdelmalek qui était sans papier, qui vendait des cigarettes à Barbès. Enfin, vraiment, il n'y avait que des histoires de ouf. Et du coup, tous les repas qu'on passait ensemble, c'était agité, il y avait de la vie. Et puis la bouffe, elle faisait de la bouffe. Oh, mon Dieu. Oh là là, je crois que j'avais jamais aussi bien bouffé de ma vie. Elle faisait une bolognaise, mais incroyable. Après, elle nous faisait des salades d'aubergines. En fait, tout ce qu'elle faisait était bon. Voilà. Ces 2 semaines extra, dans ma tête, je savais qu'il allait avoir une fin, mais j'ai quand même profité de chaque moment. Ce qui est très particulier, c'est que du coup, quand l'éducatrice est venue pour me récupérer, on devait aller à la gare pour prendre le train, aller dans le sud, et là, Madame Moussa, donc, regarde mon éducatrice, ça je m'en souviendrai toujours, elle lui dit « Non, non, mais Lies ne va pas partir, il va rester chez moi ». Elle insiste, quoi, et elle s'énerve en plus. Et puis quand elle s'énerve, faut voir le caractère qu'elle a, tu vois. C'est quand même un caractère de merde. Et donc, l'éduc appelle son chef, Monsieur Favaro. Oh là là, c'était un homme, pour le coup, lui, il était extraordinaire, je l'aimais beaucoup. Et il lui dit, pour une fois que quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. Et en fait, j'y suis resté comme ça. Et ça a changé ma vie, parce que ce moment-là, en fait, c'est la première fois que quelqu'un se battait pour moi. Elle m'inscrit quand même au collège du coin, elle voit bien que ça marche pas, enfin, l'école c'est pas fait pour moi, donc elle me dit c'est pas grave, on va t'inscrire en CAP, il y a un truc de cuisine, parce que j'aimais bien faire la cuisine avec elle, et donc elle m'a poussé à reprendre mes études comme ça, en parallèle, donc j'ai relu Samira Bellil chez elle, et c'est là où je me suis dit j'ai du mal à digérer ce que j'ai vécu, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à avancer, il y a un truc qui me reste en travers de la gorge, je peux pas rester à rien faire, il faut que je fasse quelque chose. Donc je retermine le livre de Samira et moi évidemment mon premier réflexe c'est que je veux la rencontrer. Donc je fais un mail à Ni Pute Ni Soumise, je donne pas mon âge, je dis très peu de choses, je dis juste je voudrais militer, je voudrais rencontrer Samira, etc. Elle vient me voir, elle me dit mais t'as quel âge toi, t'es accompagnée, sont tes parents? Je dis non, moi je suis venue parce que j'ai lu le livre de Samira Bellil, je voulais la rencontrer, je veux participer et tout. On met en place une convention qui m'autorise, en échange de ne pas sécher les cours, à y aller tous les mercredis après-midi. J'adorais parce qu'en fait, j'étais vraiment au quotidien plongé dans un environnement de lutte, de joie. Il y avait de l'action, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis dit, c'est terminé, en fait. Maintenant, il va falloir qu'on parle de nous. Donc, moi, je vais raconter mon histoire, je vais faire comme Samira. Et donc, j'ai tapé sur Google numéro de journaliste. Et donc je prends son numéro. À l'époque, j'avais un petit téléphone portable à carte avec du crédit et je harcelais cette journaliste. Et on se rencontre, donc elle me donne rendez-vous au jardin du Luxembourg. Et là, en fait, on parle pendant des heures. Donc je lui fais vraiment tout le topo et elle me dit « Bon, bah, en effet, il y a un truc, il faut qu'on voit, je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse un livre. » Et elle me dit « Je vais te présenter à un ami à moi qui est éditeur. » Elle m'envoie vers Guy Birenbaum et Guy me reçoit à l'époque dans les locaux de Fleuve Noir. Il me fait asseoir, il me dit « Bon, Zaina m'a demandé de te rencontrer, je sais pas pourquoi, donc est-ce que tu peux m'en dire plus ?»« Bah oui, voilà, je vais te parler de ça, il y a eu ça, etc. » Et Guy me dit un truc à ce moment-là, mais qui était complètement délirant, il me dit « Yes, c'est marrant, mais tu me fais vraiment penser à quelqu'un à qui j'ai édité le livre un jour, ça n'a rien à voir avec la protection de l'enfance, les enfants placés, mais c'était sur les viols collectifs. » Et là, je découvre qu'en fait, Guy Birenbaum était l'éditeur de Samira Bélé. Guy ensuite me présente à Flammarion, ma mère biologique signe mon contrat d'édition, puisque j'étais encore mineur, et puis après c'est comme ça que les choses se sont accélérées en fait. Quand le livre sort, il y a cet écho médiatique qui est important, on me dit « Christiane Taubira veut te rencontrer, donc elle veut te proposer un café au ministère de la Justice, place Vendôme, etc. J'y vais, ça se passe super bien. » Elle organise un dîner ensuite avec des gens influents de la protection de l'enfance, des magistrats, etc. Un dîner qui se passe très 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 mal, où les personnes avaient tous mon livre sous le bras. Ils me disent « Méliès, vous vous rendez bien compte qu'avec votre livre, vous allez pousser des éducateurs au suicide, enfin bon, des trucs complètement délirants. » Et puis il y avait également à cette table Laurence Rossignol qui allait devenir la ministre de l'enfance plus tard. Et là avec Laurence, il y a un vrai feeling tout de suite. Laurence dit on va faire une grande concertation nationale sur la protection de l'enfance, comme ça on va voir comment on peut réformer ce système. Donc moi je dis à la télévision, voilà, Laurence Rossignol va lancer une concertation nationale au mois de novembre. Voilà l'adresse mail, si vous avez été placé à l'ASE, que vous avez été victime de violence, écrivez-moi, comme ça vous serez reçu et vous pourrez dire ce que vous avez vécu. Donc évidemment, je me fais appeler par le cabinet de Laurence qui me dit, non mais ça va pas ou quoi, tu peux pas aller à la télé annoncer qu'on va faire ça. Je dis, bah là, va falloir vous dépêcher parce que je viens de recevoir 3000 emails hein, déjà sur la boîte. C'était impressionnant. Et donc bah là, évidemment, le cabinet s'affole. Et donc du coup, on fixe la date du 3 novembre 2014, lancement de la grande concertation nationale. On invite 80 personnes représentatives en fait des mails qu'on a pu recevoir. Laurence ouvre la session de concertation à 8h du matin, 9h du matin. Ça a fini, je dirais, à minuit et demi. Toutes les personnes ont pris la parole les unes après les autres et ont raconté au micro, devant la ministre qui était là, qui n'a pas bougé, toutes leurs histoires. Toutes leurs histoires. Les gens pleuraient, on se prenait dans les bras, on avait l'impression de tous se connaître. Et on est ressorti de là complètement chamboulé. Un monde s'est ouvert à nous. Enfin, c'était avec de l'espoir en se disant, mais en fait, voilà, ça va bouger, quoi. Et de là est née la loi du 14 mars 2016. Voilà. Donc la protection de l'enfance, ça a été moi mon quotidien. H24, 7 sur 7, du lundi au dimanche, pendant 10 ans, non-stop. J'ai pas eu de relation sentimentale pendant longtemps, parce qu'en fait, j'avais pas de temps à consacrer à ça. Mes amis, je les voyais très peu. Quand t'entends des souffrances tous les jours, toute la journée, des histoires horribles, où en plus tu peux parfois te sentir dans la majorité des cas impuissant, ça te rend dépressif, hein, clairement. Et puis je voyais que les choses avançaient pas assez vite, j'avais l'impression qu'entre le drame de la situation et le peu d'écho qu'on avait au niveau politique, c'était insupportable. À un moment, en effet, on pète un plomb, moi j'ai pété un plomb. J'avais la sensation d'avoir tout fait. Et il se passe là, donc clairement je me suis dit, la prochaine étape, je vais me suicider, et je vais faire de mon suicide un acte politique. Là, je me suis dit, ok, ça va trop loin, en fait. Ça va trop loin. J'ai décidé de prendre une pause de tout ça, de me barrer vivre à l'étranger. Je suis parti au Québec pendant un an. Je pouvais même pas rester physiquement sur le territoire français. C'était au-delà de mes forces. Je coupe tout, je pars, j'explique dans une lettre pourquoi je pars et que du coup, bah, il faut pas m'écrire parce qu'en fait, ce sera une lettre morte. Il va falloir trouver d'autres interlocuteurs, mais pas moi. Voilà. Je voulais aussi que les gens comprennent que c'était notre responsabilité collective de s'engager. Je prends un billet d'avion. Avant le Québec, je voulais de la chaleur. Donc je me suis dit, bon, allez, le Brésil, c'est très bien. J'ai tapé village de hippies sur Google. Je suis tombé sur Jericoacoara. Et j'ai posé mes valises. dirais le premier mois, j'étais complètement euphorique. J'avais plus de téléphone, j'avais plus de aucune contrainte. En fait, j'ai vécu une adolescence. Je vais le dire de manière très claire. L'adolescence que je n'ai pas vécue, je l'ai vécue pendant cette année de pause. Donc j'ai beaucoup fait la fête. Beaucoup, beaucoup fait la fête. J'ai fait beaucoup de rencontres. Je me suis beaucoup amusé. Mais en tout cas, voilà, donc je pars du Brésil, je m'installe, je pose mes bagages au Québec, je vis en colocation avec des gens extraordinaires, j'ai pris un boulot dans un organisme communautaire, enfin un travail social à l'américaine, quoi. Et donc, voilà, j'ai beaucoup appris, puis c'était pas lourd. Ceci dit, à la fin, la dureté parisienne me manquait, donc j'avais envie de rentrer, mais en tout cas, voilà, ça a été une année de totale déconnexion, vraiment. Enfin, je me reconnecte à moi, je récupère de l'énergie, je redeviens positif. Et puis, ça m'a rendu humble, en fait, parce que je me suis dit, bah, je peux ne pas être là, c'est pas grave, en fait, c'est OK. Et j'ai compris aussi que mon action, elle s'inscrirait dorénavant dans un temps long. La société va mettre du temps à évoluer. Donc ça, je l'ai accepté maintenant. Moi, je vais faire ce que je peux faire. Je vais continuer, évidemment, la bagarre. Mais les résultats, ça sera pas tout de suite et je les verrai peut-être pas. Et ben voilà, tout de suite ça me met à distance et ça m'a rendu beaucoup plus tolérant avec moi-même. Voilà.
C'était Liesse Loufoque, Rescapée des foyers, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Louise André. Merci bien sûr au principal intéressé, à Liesse Loufoque, ainsi qu'à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Luce Mourant, notre stagiaire.
My eyes try to see a spark, but I love you so, and it pains me so when you tell me it doesn't show. 'Cause it means I've done something terribly wrong. But I love you so, and it pains me so when you tell me it doesn't show. 'Cause it means I've done something terribly wrong. How can I try my best? Still make it all a mess. It's like walking in the dark. My eyes trying to see a spark, but I love you so, and it pains me so when you tell me it doesn't show. 'Cause it means I've done something terribly wrong. But I love you so, and it pains me so when you tell me it doesn't show. 'Cause it means I've done something terribly wrong.